Aujourd'hui, à Washington.
Bonsoir, il est 17h30 en temps universel. Bienvenue dans cette édition du 14 juin 2019. Nathalie Barge à la présentation, voici les titres. Au Bénin, violence entre l'armée et des manifestants depuis 4 jours dans plusieurs localités dans le nord du pays. Au Tchad, un commissaire et 2 policiers ont été condamnés à 5 ans de prison pour implication dans la torture à mort d'un jeune détenu. Soudan, le secrétaire d'État américain adjoint chargé de l'Afrique, Tibor Nagy, appelle à une enquête indépendante et crédible sur la dispersion meurtrière à Khartoum. Les États-Unis accusent l'Iran d'avoir perpétré les attaques d'hier contre 2 pétroliers dans la région du Golfe. Et juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. La situation est très tendue au Bénin. Après plus de 4 jours d'affrontements entre l'armée et les populations à Savé et Tchaourou, ville d'origine de l'ancien président Boni Yayi, les forces armées sont également présentes sur la route principale entre Tchaourou et Parakou pour dégager les barricades. Le point avec Rodrigue Azinongbe de notre station partenaire Fraternité FM à Parakou.
La situation est toujours tendue à Tchaourou dans la journée de ce vendredi avec à la clé les différentes parties, c'est-à-dire les militaires et les chasseurs traditionnels qui se regardent en chien de faïence. L'annonce hier nuit de l'ouverture de la route nationale interétat numéro 2 n'aura duré qu'un feu de paille. Les chasseurs sont encore entrés en action, bloquant de part et d'autre de la ville la voie reliant Cotonou au nord du pays. Ils exigent toujours la libération des personnes arrêtées dans le cadre de l'enquête sur les troubles survenus lors des législatives du mois d'avril dernier. Selon plusieurs sources bien informées, il y aurait eu des victimes au cours des événements d'hier entre les chasseurs et les renforts militaires venus de Cotonou pour lever le blocus de Tchaourou. Très tôt ce matin, ce sont des militaires blessés qui ont été évacués de Parakou pour Cotonou par hélicoptère. Ce matin encore, ce sont des habitants de Tchaourou qui fuyaient la ville, soit à pied, soit à moto. Impossible d'entrer dans la ville à cause des tirs d'armes qui s'entendaient au loin.
Un homme blessé jeudi lors d'une manifestation en Guinée contre une révision de la Constitution est décédé, a indiqué le maire de Nzérékoré. Cette ville du sud-est du pays a été placée sous couvre-feu nocturne à la suite des violences qui ont fait une 30aine de blessés. L'un de ces blessés, poignardé lors d'affrontements entre militants rivaux, a succombé dans la nuit, a dit Moriba Albert Delamou. Hier soir, le préfet Sori Sano a instauré un couvre-feu de 16h30 à 7h du matin. Après les heurts, des commerces ont été pillés et des coups de feu entendus dans plusieurs quartiers. Le parquet de grande instance de N'Djamena a condamné 3 officiers de police nationale à 5 ans d'emprisonnement ferme. Le verdict est tombé à l'issue d'une audience publique au palais de justice de la capitale tchadienne. Notre correspondant André Kodmadjingar fait le point.
Abdelkrim Hassan Nassour, commissaire premier adjoint du 16-7 commissariat de sécurité publique de N'Djamena, et 2 de ses agents sont déclarés par la justice tchadienne coupables de sévices corporels ayant entraîné la mort d'un jeune dans les locaux du dit commissariat. En effet, le 25 mai dernier, Yahya Daoud et Abdoulaye Awad, présumés auteurs d'un meurtre, sont arrêtés et détenus au 16-7. Sur instruction du commissaire Abdelkrim Hassan Nassour, les présumés ont subi des actes de torture afin d'obtenir leur aveu sur les faits qui leur ont été reprochés. C'est ainsi que Yahya Daoud a succombé quelques heures plus tard. À la première comparution la semaine dernière, les parents de la victime ont désisté puisqu'ils ont eu quelques billets de banque de la part des accusés pour organiser les funérailles. Mais cela n'a pas empêché le ministère public d'aller jusqu'au bout du procès. Abdelkrim Hassan Nassour est condamné avec 2 de ses complices à 5 ans d'emprisonnement ferme, une amende de 1 500 000 francs CFA à titre de dépenses engagées et 10 millions de francs CFA de dommages et intérêts opposables à l'État tchadien qui est civilement responsable. Pour maître Mailassum Lombatna Franklin, avocat de la défense, la sentence est lourde car, dit-il, son client n'a pas donné de l'ordre à quiconque de torturer un citoyen. Il entend interjeter appel dès lundi pour que la cour d'appel apprécie son innocence. Le chef d'antenne de l'ANS, Agence nationale de sécurité du CSP7, a été déclaré non coupable dans cette affaire. André Kodmadjingar N'Djamena pour VO Afrique.
Le secrétaire d'État américain adjoint chargé de l'Afrique, Tibor Nagy, a appelé ce vendredi à Addis Abeba à une enquête indépendante et crédible sur la dispersion meurtrière d'un sit-in de manifestants début juin à Khartoum. Jacques Aristide nous en dit plus.
Lors d'un point de presse dans la capitale éthiopienne, après une visite de 2 jours à Khartoum, Tibor Naj affirme que cette enquête est nécessaire pour déterminer ceux qui se sont rendus coupables de ces événements qu'il qualifie de monstrueux. D'après un comité de médecins proches de la contestation au Soudan, quelques 120 personnes ont été tuées, la plupart dans la dispersion du sit-in devant le siège de l'armée. Les autorités ont parlé de 61 morts. Pour le diplomate américain, ces événements ont marqué un virage à 180 degrés de la situation, précisant que jusqu'au 3 juin, tout le monde était très optimiste. Hier, pour la première fois, les généraux ont admis avoir ordonné la dispersion du sit-in. Tibor Naj juge cruciaux les efforts actuels déployés, notamment par l'Union africaine et l'IGAD. Le diplomate souligne que le rôle des États-Unis dans cette crise est d'appuyer les efforts de médiation des deux blocs pour arriver à l'objectif d'un gouvernement dirigé par des civils à la fin de la transition.
Par ailleurs, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est montré divisé ce vendredi sur le retrait de sa force de paix dans la région soudanaise du Darfour, entre Européens et Africains réclamant sa suspension et la Chine et la Russie demandant sa poursuite. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité consacrée à la prolongation de la MINUAD, les Européens et Africains ont appelé à une suspension du retrait et à un simple renouvellement technique du mandat de la mission. En Algérie, le général à la retraite Ali Guédéri, ex-candidat déclaré contre Abdelaziz Bouteflika à la présidentielle, a été écroué pour atteinte à l'économie nationale et au moral de l'armée. John Linden nous en dit plus.
Après avoir été entendu jeudi par le juge d'instruction, Ali Guédéri a été écroué à la prison d'El Arak dans la banlieue d'Alger, a déclaré Nabil Maizi, son chargé de communication. Le général à la retraite est accusé de participation à la remise à des agents étrangers d'informations portant atteinte à l'économie nationale. Novice en politique, le général Guédéri avait déposé sa candidature à la présidentielle du 18 avril face à Abdelaziz Bouteflika. Finalement, ce scrutin n'a pas eu lieu à cause de la révolte populaire contre le 5e mandat du président algérien. L'emprisonnement d'ex-piliers du régime n'a pas calmé la contestation. Les manifestants sont à nouveau sortis massivement ce vendredi pour réclamer le départ de tout le système.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Donald Trump, s'appuyant sur une vidéo publiée par le Pentagone, affirme que les attaques contre 2 pétroliers dans la mer d'Oman hier portent la marque de l'Iran. Le point avec Lionel Gaïma.
Selon M. Trump, sous la vidéo publiée par le Pentagone, on voit le bateau avec une mine qui n'a pas explosé et c'est signé par l'Iran. Le secrétaire d'État américain Mark Pompeo avait déjà déclaré hier que Téhéran en était responsable. L'Iran, où se trouvait hier le premier ministre japonais Shinzo Abe, a démenti toute implication. 2 pétroliers, l'un norvégien et l'autre japonais, ont été la cible d'attaques d'origine indéterminée en mer d'Oman. Cette attaque n'a pas été revendiquée. Elle intervient un mois après le sabotage de 4 navires, dont 3 pétroliers, au large des Émirats arabes unis. Là encore, Washington avait montré du doigt l'Iran, qui avait nié ses allégations. L'Union européenne appelle à une retenue maximale, tout comme le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. 30% de la production mondiale de pétrole transitant par le détroit d'Ormuz, le prix du baril n'a cessé de grimper depuis hier.
Par ailleurs, le premier ministre irakien Adel Abdelmahdi a plaidé pour l'apaisement auprès du secrétaire d'État américain Mike Pompeo, alors que les 2 grands alliés de Bagdad, l'Iran et les États-Unis, sont engagés dans une guerre des mots, faisant craindre un embrasement. La tension est de nouveau montée entre Téhéran et Washington après l'attaque de 2 tankers en mer d'Oman hier. Les États-Unis accusent l'Iran. Le chef du gouvernement irakien a dit ce vendredi vouloir travailler à l'apaisement pour protéger les intérêts des peuples de la région, selon son bureau. Et la haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme va se rendre au Venezuela du 19 au 21 juin, où elle rencontrera le président Nicolas Maduro et son principal opposant, Juan Guaido, a annoncé son bureau. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. La Minute Éco vous est présentée par Nani Talani.
Au Sénégal, l'attribution au groupe français Suez du marché de la distribution d'eau a été confirmée après le rejet d'un recours introduit par son concurrent malheureux, la Sénégalaise des eaux, SDE, opératrice depuis 1996. L'autorité de régulation des marchés publics estime que la SDE n'a pas démontré que le groupe Suez avait bénéficié d'informations liées au projet CAMES 3 qui lui a donné un avantage sur ses concurrents. La SDE peut saisir la Cour suprême dont la décision peut prendre des mois ou des années. L'Allemagne a lancé hier à Abidjan en Côte d'Ivoire un nouvel instrument de promotion de ses investissements privés. Ce réseau regroupe toutes les institutions allemandes de promotion des échanges économiques et de développement pour les rendre plus accessibles au secteur privé ivoirien. La DG, la Banque allemande de coopération destinée au financement du secteur privé, a ouvert l'an dernier un bureau à Abidjan, après l'Afrique du Sud, le Kenya et le Ghana. Pour terminer, au Zimbabwe, le paiement des pensions des retraités du secteur public pourrait être en retard ce mois-ci à cause d'un conflit entre les banques locales et un éditeur de logiciels de paiement. La société d'investissement londonienne Cambria Africa, le fournisseur de la plateforme de paiement utilisée par les banques zimbabwéennes, exige d'être payé en devises étrangères, faute de quoi il suspendra les services.
Bonsoir Nathalie.
Bonsoir, on aime bien cette musique, n'est-ce pas?
Oui,
on l'adore, on l'adore. Donc à présent, les sports, Jacques Aristide, on vous écoute.
Oui.
Alors 20 ans après leur création, les Raptors de Toronto ont remporté le premier titre de la NBA de leur histoire hier soir.
Oui, Nathalie, ils ont fait une entrée remarquée dans les annales du basket nord-américain. Les Raptors sont devenus la première équipe non-américaine à remporter le titre le plus convoité de ce sport. Ils ont vaincu les doubles champions en titre, les Warriors de Golden State, grâce à une victoire de 114-110 dans un sixième match qui a une fois de plus compté nombre de rebondissements et une blessure sérieuse. Des scènes de liesse dans les rues de Toronto, des milliers de supporters ont célébré la victoire des Raptors jusqu'aux petites heures du matin.
Je suis statique, on attendait ce moment depuis longtemps, nous l'avons finalement fait, c'est notre année, nous le Nord.
De quoi jubiler car leur équipe, 24 ans après sa création, a été propulsée dans l'histoire de la NBA, la seule équipe canadienne en lice, la première à remporter le championnat de basket nord-américain, un triomphe qui est le résultat d'une incroyable et improbable saison car les Raptors ne faisaient pas partie des favoris ou même des outsiders. Un exploit qui est également une victoire pour le basket africain. Le président de l'équipe, Masai Ujiri, est de père nigérian et de mère kényane. Et deux de ses joueurs majeurs viennent du continent, Pascal Siakam du Cameroun et Serge Ibaka du Congo-Brazzaville.
À tous qui nous ont soutenus pendant la saison, à tous les fans de Toronto, à tous les Canadiens, ceci est pour vous et vous le méritez.
De la chance également pour Toronto face à un Golden State qui disputait sa cinquième finale d'affilée et qui visait un troisième titre consécutif. Le club californien a été décimé par les blessures qui l'ont notamment privé de son meilleur marqueur Kevin Durant, alors que son meneur vedette Stephen Curry a manqué beaucoup d'occasions. Les Warriors se sont toutefois battus jusqu'au bout et assurent que cette défaite ne signale nullement la fin de leur domination sur la NBA, même si les Raptors détiennent le trophée depuis hier soir.
Du football à présent avec la Coupe du Monde féminine, les Japonaises mettent la pression sur les Anglaises.
Oui Nathalie, très rapidement, le Japon a en effet pris la tête du groupe D aujourd'hui grâce à sa victoire 2-1 sur l'Écosse en attendant l'issue du match Angleterre-Argentine dans la soirée.
Un grand merci Jacques pour cette page sportive.
Je vous en prie Nathalie.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez en effet Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, Nathalie Barge en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Au Bénin, la situation est toujours tendue à Tchaourou, le village natal de l'ancien président Thomas Boni Yayi. Depuis lundi, des partisans de l'ancien président manifestent leur colère. Le point avec notre confrère Rodrigue Azinongbe de Fraternité FM, notre station partenaire à Parakou.
Tchaourou, la plus grande commune du Bénin en termes de superficie, bourgade située à 361 km au nord de Cotonou, est au cœur de l'actualité depuis quelques jours. En effet, la ville de l'ancien président de la République Boni Yayi focalise toutes les attentions depuis les législatives d'avril dernier et les violences qui ont caractérisé les dites élections dans cette localité. Depuis lundi et l'arrestation de présumés meneurs de la fronde électorale, certains jeunes auxquels se sont ajoutés les chasseurs traditionnels ont bloqué la circulation sur la voie interétat numéro 2 traversant la ville. En somme, c'est l'économie nationale qui prend un coup quand on sait que l'essentiel du trafic entre les pays de l'Interland et le port de Cotonou passe par cette localité. Pour l'heure, on assiste à des affrontements entre les chasseurs qui, bardés d'amulettes et de gris-gris, donnent du fil à retordre aux militaires lourdement armés. Au milieu de ces violences, les populations qui se retrouvent piégées et livrées à elles-mêmes et parfois obligées de fuir avec les moyens du bord pour trouver refuge dans la périphérie de la ville ou à Parakou. Écoutons quelques-uns que nous avons rencontrés ce matin.
Le problème qui se pose à Tchaourou, on se sent mal. On a quitté Tchaourou pour les villages, certains villages au champ. On est là. On se sent mal, très très mal. On a faim, on ne mange pas. Là, comment je suis, j'ai fait 3 jours, je suis en train de faire la diarrhée. J'ai les maux de ventre. Il y a ça aussi. Pharmacie, tout est fermé. Il n'y a rien. La scène qui se passe là-bas, là, par rapport à leur débat, grave même. Il y a des morts même déjà. Des blessés. Bon, ce matin, c'est grave. C'est grave, c'est vraiment grave. Ils ont commencé par lancer les bombes, des gaz. C'est pour cela qu'on a quitté Tchaourou pour Guinée.
On dénombre pour l'heure beaucoup de blessés de part et d'autre. Côté militaire, les blessés ont été évacués ce matin par voie aérienne sur Cotonou. Aux environs de 15h temps universel, de nouveaux blessés sont arrivés à l'hôpital des armées de Parakou, preuve que les affrontements se poursuivent sur le terrain. Mais côté manifestants, on n'a aucune information concernant les blessés ou d'éventuelles victimes. Personne ne peut, à l'heure où nous parlons, entrer dans la ville. Ce n'est que quand tout redeviendra normal qu'on pourra savoir exactement ce qui se passe dans cette zone isolée depuis quelques jours et qui est victime des intrigues électorales ou encore victime de la rivalité entre les deux présidents, l'ancien et le nouveau, une rivalité qui dure maintenant depuis quelques années.
Rodrigue Azinongbe de Fraternité FM est notre partenaire à Parakou au Bénin.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Les huissiers d'Afrique et d'Europe réunis à Brazzaville à l'occasion de leur 5e rencontre ont appelé les gouvernements africains à faciliter la mise en place d'un titre exécutoire transfrontalier pour permettre l'exécution des jugements rendus dans un pays autre que celui de la victime. Pour eux, ce processus facilitera la bonne distribution de la justice sur le continent. Les précisions avec notre correspondant Arsène Séverin.
Les discussions des huissiers de justice réunis à Brazzaville ont porté essentiellement sur les moyens de faire appliquer une décision de justice d'un pays à un autre sans tenir compte des frontières politiques. Les huissiers, dont le métier est de faire appliquer les jugements, même les plus cocasses, demandent la création d'un titre exécutoire sur l'ensemble des pays africains. Maître Marcelin Zosubo, huissier béninois.
On a beaucoup parlé de ça parce que nous souhaitions plutôt, au lieu qu'une décision rendue par exemple en Côte d'Ivoire puisse être exécutée aisément au Bénin sans passer par la procédure de la reconnaissance et de l'exécution. Cela suppose un titre exécutoire purement africain, une titre exécutoire et qui puisse traverser toutes les frontières.
Le président de la Chambre nationale des huissiers du Congo, Jean-Didier Bidier, assure que ce titre doit voir le jour pour satisfaire tous les clients.
C'est une nécessité. Il nous faut arriver à adopter un titre exécutoire, d'abord au plan africain. Et nous avons un atout, l'OADA, qui existe déjà. Donc nous y croyons et ça va faciliter le travail des huissiers. Ça va aussi faciliter les affaires. Parce que l'homme d'affaires qui a gagné son procès veut rapidement mettre à exécution la sentence, que ce soit au Gabon, que ce soit en Chine, que ce soit n'importe où. Il veut rapidement mettre en exécution son jugement et rentrer dans ses droits.
Pour Maître Rosine Bogoré Zongo de la Côte d'Ivoire, les autorités politiques seront obligées de coopérer afin que ce titre existe.
Nous pensons que le travail doit être fait à la base également par les différents ordres et à partir de là, nous pouvons demander l'appui et l'accompagnement des autorités pour que justement un texte puisse être pris à l'image de l'OADA et pour faciliter justement la circulation des décisions.
Mais il ne s'agit pas d'un huissier de justice qui, tel un oiseau, voyagerait de pays en pays pour faire appliquer les décisions de justice. Mark Smith, président de l'Union internationale des huissiers de justice, explique.
Si vous avez par exemple un jugement qui est rendu par un tribunal de la République du Congo et qui doit être exécuté au Gabon, eh ben ce n'est pas l'huissier de justice congolais qui va aller au Gabon pour l'exécuter, mais c'est évidemment l'huissier de justice congolais qui va transmettre le jugement tel quel à son homologue gabonais et son homologue gabonais va l'exécuter sans la moindre formalité supplémentaire. L'huissier de justice, lui, il est un officier ministériel et évidemment, en cette qualité, il ne pourra jamais quitter son pays pour aller exécuter. Ses compétences se limitent à l'intérieur des frontières de son pays.
Les huissiers d'une vingtaine de pays d'Afrique et d'Europe réunis à Brazzaville plaident désormais pour l'existence de cette facilité en s'appuyant sur le cadre OADA qui simplifie les droits des affaires sur le continent. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Pour s'évader l'espace d'un instant, une page culture. Les productions audiovisuelles d'Afrique subsaharienne attirent de plus en plus de pays étrangers et elles sont en hausse pour répondre à la demande locale et internationale. C'est ce qui ressort du dernier Discop qui s'est tenu à Abidjan le mois dernier. J'ai contacté le président du Discop, Patrick Zukovicki, qui fait le point sur l'audiovisuel en Afrique avant de commenter la progression des femmes dans le métier.
Ce que nous remarquons tout d'abord, c'est le fait qu'il y a de plus en plus de producteurs, de créateurs, de scénaristes, de talents qui viennent des pays que nous couvrons. À Abidjan, nous avons constaté qu'il y avait deux fois plus de producteurs indépendants qui sont venus d'Afrique subsaharienne. Donc le commerce intra-régional aujourd'hui est effectivement un élément remarquable de nos marchés puisqu'il permet aujourd'hui un commerce beaucoup plus dynamique entre des chaînes qui demandent du contenu local et en face des producteurs et des réalisateurs et des talents qui ont une meilleure perception des besoins ou des habitudes culturelles. Et effectivement, dans ce réservoir de talents, nous constatons qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont aujourd'hui devant, derrière la caméra, qui écrivent, qui participent à ces développements et qui effectivement jouent un rôle de plus en plus important. Mais cette place justement a besoin encore d'être affirmée. Il y a du travail, il y a un travail à faire pour justement permettre à ces femmes d'avoir beaucoup plus d'assurance dans un monde qui n'est pas toujours facile, celui du divertissement audiovisuel.
Alors vous l'avez dit, c'est une réalité, peu de femmes devant, derrière la caméra, même si c'est en progression, mais au niveau de la production, c'est très rare les femmes productrices. Est-ce que c'est principalement une question de financement, selon vous ?
Je me permettrai simplement de dire qu'il y a quand même un certain nombre de femmes productrices aujourd'hui en Afrique subsaharienne qui font parler d'elles et qui le font comme n'importe quel chef d'industrie pourraient le faire, notamment Mohamedou au Nigeria, qui est, on va dire, l'Oprah Winfrey nigériane, et derrière Mo, beaucoup d'autres femmes qui sont à l'origine d'initiatives de production. Mais effectivement, elles ne sont pas légion, et c'est pour l'instant une industrie dominée par les hommes. Alors, ce qui manque, je dirais que les moyens manquent à tout le monde. Il n'y a pas, à mon sens, et peut-être que je me trompe, mais je pense pas qu'il y ait plus de moyens aujourd'hui disponibles pour un producteur masculin qu'une productrice. Je pense qu'il y a de toutes les manières et un manque chronique de moyens de financement qui touche tout le monde. Je pense aussi qu'il y a un manque de confiance qui fait que cette assurance indispensable aujourd'hui n'est pas innée, qu'elle demande à être entretenue puis affichée. Il y a un parcours, il y a des parcours, il y a des raisons, des circonstances, mais je pense que de façon générale, je suis quelqu'un d'optimiste et je vois et je constate qu'il y a une progression dans la volonté, dans les mœurs, dans les moyens, dans la reconnaissance, bien sûr, du talent de ces femmes qui, encore une fois, pour certaines d'entre elles, contribuent déjà à la diversité et au succès des séries qui sont produites en Afrique.
Patrick Zukovicki, président du DISCOP, était joint à Los Angeles, en Californie.
L'Amérique et vous sur VOA Afrique. Ce soir, nous faisons le point sur la situation au Soudan. Depuis le début de la crise au Soudan, Washington insiste sur le transfert du pouvoir aux civils. Nous serons en compagnie de notre envoyé spécial à Khartoum, Patricia Huon, et de Mohamed Nagy, rédacteur en chef du magazine Sudan Tribune à Paris. Posez vos questions en direct à 19h05, temps universel, en appelant le 001-202-205-2633. Vous pouvez également nous laisser vos commentaires et vos coordonnées sur la page Facebook de VOA Afrique. L'Amérique et vous, c'est ce soir à 19h05, temps universel, sur VOA Afrique.
On termine par la grande nouvelle en sport, sachant qu'ici aux États-Unis, Toronto a fait une entrée remarquée dans l'histoire de la NBA hier soir. Les Raptors sont devenus la première équipe non américaine à remporter le titre le plus convoité du basket en faisant tomber dans sa salle le Golden State par 114 à 110. Retour sur cette finale avec Jacques Aristide.
Je pense que c'est un plus pour le basket dans le monde. Cette équipe de Toronto, ça fait 24 ans qu'elle joue dans cette fameuse ligue de la NBA. Et pour la première fois, elle a pu se hisser au plus haut niveau du basketball américain. Et ce qui veut dire que le basket évolue un peu partout dans le monde.
Pas de three-peat pour les Warriors, c'est-à-dire pas de troisième titre consécutif. Est-ce tout simplement la fin d'un rêve ou carrément celle de la dynastie de Golden State?
Mais vous savez que c'est très difficile de faire un tripit. Je pense que pour cette année, c'était à mon avis impossible pour les Golden Warriors, Golden State Warriors, de le faire parce qu'ils ont eu enregistré de nombreux blessés. Et pour la suite, cela va dépendre de qui revient et qui ne revient pas. Vous avez appris que hier, même Klay Thompson a eu un torn ACL, donc il sera probablement indisponible pendant 6 à 8 mois. Kevin Durant, beaucoup plus longtemps. Donc, probablement qu'il y aura un nouveau paysage du basketball de ceux qui seront dans le top de la NBA la saison prochaine. Il y a des équipes comme les Los Angeles Lakers qui sont en train de faire des recrutements assez importants et la nouvelle équipe comme Portland, une jeune équipe, Denver, en tout cas, l'année prochaine, la compétition sera beaucoup plus âpre et ouverte à toutes les autres équipes.
Le président des Raptors de Toronto, Masai Ujiri, est de père nigérian et de mère kényane. Et deux de ses joueurs majeurs viennent du continent, Pascal Siakam du Cameroun et Serge Ibaka du Congo-Brazzaville. Cet exploit est-il également une victoire pour le basket africain?
Tout à fait, c'est une très grande victoire pour notre basket. Vous avez même oublié, il y a un troisième joueur africain qui, parce qu'il avait été blessé, il était de retour il n'y a pas très longtemps, qui n'a pas pu jouer, Anoledji, qui est aussi dans ces Nigérians, qui est aussi dans cette équipe. Donc en fait, on a trois représentants que joueurs et le manager, directeur de basketball operation, qui est Masai Ujiri. Je pense que l'Afrique peut mieux faire que ça. Il nous appartient à nous de travailler, être encore plus organisés afin de mieux préparer nos joueurs. Je pense que dans les années à venir, ce qui est sûr, cela va encourager le développement du basketball en Afrique et on espère que à ce niveau, on aura plus que ce qu'on a eu aujourd'hui avec ces trois joueurs. Je pense qu'on pourrait offrir encore plus au basketball mondial.
C'était l'analyste sportif Eugène Péoua Pelema, ancien joueur de basketball, joint ici à Washington. C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, c'était Michel Joseph, à la console Patrick Déa, et c'était Nathalie Barge à la présentation. À présent, les titres avec Nani Talani. Bonne soirée à toutes et à tous.
VOA Afrique, les infos.